Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Ce vendredi 17 mars, nous vivons la journée de prière pour les victimes d'abus au sein de l'Église. Alors c'est un sujet que nous avons abordé dans une émission récente avec le Père Giuseppe Sirigelli, une émission qui est à réécouter sur le site de Radio Présence et sur le site du diocèse catholique65.fr. C'est un sujet, la lutte contre les abus, que vous abordez également dans votre lettre de carême, une lettre qui a été distribuée dans toutes les paroisses du diocèse, où vous annoncez notamment que désormais, une femme est nommée DEPLA, c'est-à-dire déléguée épiscopale pour la protection et la lutte contre les abus au sein de l'Église. Pourquoi c'est important qu'une femme soit nommée pour cette mission qui est majeure dans l'Église ?
Beaucoup de diocèses, depuis plusieurs années maintenant, ont mis en place ce qu'on appelle des cellules d'écoute des personnes victimes. Et dans la foulée de la mise en place de ces cellules d'écoute, c'est-à-dire un groupe de personnes dédiées à accueillir, mieux qu'on ne l'a jamais fait sans doute, la parole des personnes qui disent avoir été abusées. Alors, au sens large, hein, abus d'abord, abus de pouvoir, abus spirituel, mais notamment abus sexuel, et c'est surtout ces personnes-là qui sont au cœur des préoccupations ces dernières années, des préoccupations et des prises de conscience plus précisément. Et donc, en parallèle, l'Église s'est structurée et organisée pour que on ne se contente pas d'accueillir mieux les personnes victimes qui font une démarche pour dénoncer ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont pu subir, mais aussi de prévenir les choses pour qu'elles ne se produisent pas en amont. Donc toutes ces prises de conscience ont conduit à la mise en place de cette personne qu'on appelle un DEPLA, délégué épiscopal, pour la protection et la lutte contre les abus. Alors, après la mise en place des cellules d'écoute, et le raisonnement pour les cellules d'écoute s'est étendu aussi au DEPLA, en tout cas pour ce qui me concerne, a conduit à exprimer une inquiétude ou une méfiance à l'égard des cellules d'écoute, dès lors qu'elles sont un organisme ou un outil ou un dispositif mis en place par l'évêque, par le diocèse, par l'Église officielle, les victimes qui ont le sentiment de n'avoir jamais été écoutées alors qu'elles criaient, qu'elles hurlaient ce qu'elles avaient subi pendant des années, elles se disent, si c'est l'évêque ou l'Église qui met ça en place, forcément ce sera au service, encore une fois, de protéger l'institution au détriment des victimes et un magnifique outil pour enfouir les choses encore plus profondément et définitivement. Bon. Si un prêtre est présent dans cette structure ou même responsable de cette structure, ce qui était le cas chez nous jusqu'à présent, évidemment, ce n'est pas ça qui aide à lever cette méfiance. Et donc, c'est pourquoi, avec le Conseil épiscopal, nous avons décidé, quelle que soit la qualité des prêtres qui ont assumé cette mission jusque-là, et c'est le cas du Père Sirigelli actuellement encore en fonction, de nommer une femme mariée, mère de famille, avec la conviction que ça facilitera pour les victimes la démarche auprès de la cellule d'écoute et la perception aussi de ce que nous essayons de faire de toutes nos forces en matière de prévention, de lutte contre les abus, etc., si la voix est portée par une femme plutôt que par un prêtre. Voilà. C'est ça la raison numéro un. Et on a trouvé, je ne peux pas encore tout à fait communiquer sur l'identité de la personne que nous nommons à cette responsabilité, mais on a trouvé une femme magnifique pour assumer cette responsabilité. Je suis sûr qu'elle fera ça très très bien.
Alors vous parlez dans votre lettre de carême aussi d'une réorganisation du service du DEPLA précisément. Quel va être le contour de sa mission ?
Ah, ben ça alors, réorganisation du service, ça veut dire renouvellement des personnes qui font partie du conseil, enfin de ce service, voilà, et du service de la cellule d'écoute. Même si c'est deux choses distinctes, mais tout de même liées. Donc c'est aussi une femme qui est nommée responsable de la cellule d'écoute, c'est Madame Hélène Pérez, qui remplace le Père Sirigelli, qui par ailleurs était le DEPLA du diocèse. Donc c'est le même prêtre qui était responsable des deux. Aujourd'hui, c'est deux femmes différentes qui sont nommés, une des plats, l'autre responsable de la cellule d'écoute. Et donc c'est ça, les changements du service, c'est essentiellement ça. Le périmètre d'action de responsabilité, ça reste celui qui a été défini il n'y a pas si longtemps et qui demeure bien évidemment plus que jamais d'actualité.
Voilà, donc, et on rappelle que, évidemment, la cellule d'écoute est disponible, hein, 7 jours sur 7. Et puis, il y a également France Victimes, qui est un organisme d'écoute des victimes. Voilà, il y a aujourd'hui des organismes, des groupes qui sont mis en place et qui sont vraiment disponibles pour écouter ces victimes. Et vous le redites dans votre lettre de carême, où vraiment, c'est la priorité d'être disponible pour écouter ce que les victimes ont à dire.
Ben, je crois que nous avons acquis une compréhension et une conviction, désormais, Dieu merci, que les victimes, avant qu'elles osent faire une démarche, il faut déjà énormément d'énergie, de temps, et toutes ne le font pas, loin de là, et il faut à tout prix qu'une fois qu'elles ont décidé de faire cette démarche, elles trouvent des interlocuteurs qui les mettent en confiance, qui les écoutent. C'est pourquoi il faut multiplier les possibilités de lieux où cette parole pourra être reçue. La cellule d'écoute du diocèse en est un, mais j'insiste beaucoup à chaque fois que je communique à ce sujet pour dire qu'il n'est pas le seul et que les victimes ne doivent absolument pas hésiter à s'adresser soit directement au procureur de la République, soit à des organismes mis en place par l'État français qui s'appelle France Victimes ou d'autres choses, et qu'il n'y a aucune tentative de noyauter ou de faire taire cette parole des victimes, que où qu'elle soit adressée, elle sera ensuite reçue, prise en considération et évidemment écoutée avec tout le contenu et les décisions qu'il faudra prendre à la suite de ça, quoi.
Nous passons à la deuxième partie de notre entretien, Monseigneur Mika. Ce dimanche 19 mars, alors vous célébrerez la messe pour les étudiants à Toulouse avec de nombreux jeunes étudiants qui seront là. Mais ce 19 mars, c'est aussi la Saint-Joseph. Alors nous allons prendre quelques instants pour nous pencher sur la figure de Saint-Joseph qui est le patron des travailleurs, mais pas seulement. Saint-Joseph est à la tête d'une famille qui n'est pas conforme au modèle familial de son époque. C'est un modèle d'humilité, de patience. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit au fond dans notre monde d'aujourd'hui, alors qu'on sait que les familles sont en quête de repères, le monde du travail est un peu chamboulé, les travailleurs sont soit fatigués, voire révoltés, les nouvelles technologies de communication nous poussent à une forme d'écocentrisme, peut-on dire, notamment les réseaux sociaux. Qu'est-ce que Saint-Joseph peut nous dire aujourd'hui, peut dire à notre monde, comment il peut être un guide ou une petite lumière sur notre chemin, sur notre parcours?
J'ai trois quarts d'heure devant moi, c'est bien ça, non ?
Oui, tout à fait.
Alors, je ne peux pas répondre à toutes ces questions. La figure de Saint-Joseph, il y a les deux figures que vous venez d'évoquer, hein. Le père adoptif de Jésus, le père de Jésus, selon les manières de désigner les pères dans l'Antiquité et dans la culture de la Bible. Donc, il est le père de Jésus. Et puis la figure qu'il est devenu, patron des travailleurs, le 19 mars, 1er mai aussi, bon, voilà. Il y en a une troisième que j'ai en tête et en cœur aussi, qui est une figure de fécondité autre, et qui nous rejoint et peut rejoindre énormément de gens dans notre société, dans notre monde. Alors, réalisation par le travail. J'ai déjà eu l'occasion, dans le cadre de cette antenne, hein, de parler de ce que l'Église dit du travail comme coopération à l'œuvre de la création continuée. Dieu veut que l'homme soit associé à cette œuvre de création. Et Saint-Joseph, voilà, Saint-Joseph travailleur, en est une figure qui est importante. Enfin, bon. Mais je voudrais plus centrer sur la vocation de Saint-Joseph. De même qu'il y a l'Annonciation à Marie que l'on connaît par cœur le 25 mars, il y a aussi, dans les jours qui suivent, une annonciation faite à Joseph pour que lui aussi dise son fiat, qu'il ne répudie pas Marie, comme la loi normalement l'y obligerait, mais qu'il fasse confiance, un peu comme Abraham, qu'il ne comprend pas tout ce qui se passe, pas plus que Marie, mais il fait confiance à l'envoyé de Dieu qui lui dit de faire confiance, simplement. Et donc sa foi sincère, profonde, héritée de son peuple et vécue sincèrement, est éprouvée dans cet événement. Et il va devoir, Saint-Joseph, renoncer à une forme de fécondité, qui est la fécondité la plus ordinaire, la plus habituelle, celle liée à l'engendrement, pour entrer dans une autre forme de fécondité. Et il sera réellement fécond, Saint-Joseph. Il sera réellement le père de Jésus. Voilà. Réellement, au sens de père adoptif, qui va lui donner son identité humaine, profondément, l'ancrer dans sa... Et d'ailleurs, les Écritures ne manquent pas, dans les jours qui précèdent Noël, de présenter la généalogie de Jésus en l'ancrant vraiment dans l'histoire du peuple d'Israël, fils de David, fils de Joseph. Bon, voilà. Et c'est très important, ça. Jésus est à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Et voilà. Donc, Saint-Joseph a une autre forme de fécondité, une autre vocation que celle qui est la vocation habituelle. Et il me semble que pour nous, chrétiens, il est une figure... Pour l'Église tout entière, saint Paul nous rappelle que nous sommes citoyens du ciel et non pas citoyens de la terre, que nous sommes faits pour le ciel et non pas pour ce pourquoi les autres sont faits habituellement, c'est-à-dire nous installer. Bon. Après la conquête de Canaan, après l'exode de 40 ans dans le désert sous la conduite de Moïse, conquête de Canaan, 12 tribus du peuple d'Israël arrivent là, 11 vont s'installer et une ne le fera pas. Les membres de cette 12e tribu, celle d'Aaron, vont se répartir, être pris en charge par les 11 autres, parce qu'ils ont une autre vocation, une autre mission, c'est celle de servir le culte. C'est la tribu des Lévites, celle des prêtres, qui vont plus tard construire et servir le culte au temple. Ce ne sont pas eux, ils ne vont pas posséder la terre, mais ils vont avoir une autre fonction au sein du peuple. Eh bien, vocation, Saint-Joseph, pour moi, est figure de cette vocation-là, et l'Église sur la terre est aussi héritière de cette vocation-là. Nous ne sommes pas faits pour créer des républiques chrétiennes, des royaumes chrétiens, des États chrétiens. L'Église, elle est faite pour conduire au ciel et non pas pour d'abord organiser la terre et la gouverner. Et Saint-Joseph nous rappelle cela. Il y a d'autres formes de fécondité, une fécondité céleste, et c'est là notre vocation chrétienne à tous.
Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Mica. Alors, belle fête de Saint-Joseph à vous, avec les étudiants réunis à Toulouse.
Merci beaucoup, Anne-Rose.